20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Des découvertes ce soir dans le journal du classique avec notre invité Christophe Rousset. Christophe Rousset, le chef des talents lyriques et le claveciniste. Un ouvrage rare de Mozart, d'un jeune Mozart de 15 ans qui exprime déjà son génie dramatique. Et puis l'œuvre pour clavecin d'un représentant peu connu de la dynastie Couperin, Armand Louis. Deux remarquables enregistrements qui viennent de paraître chez Aparté. Avant cela, intéressons-nous, comme chaque soir, aux derniers événements de l'actualité musicale. Une nomination, tout d'abord, celle de Daniel Harding en tant que chef en résidence de l'Orchestre de la Suisse romande, et cela pour les deux prochaines saisons. Un orchestre que le chef anglais connaît bien, avec lequel il vient tout juste de réaliser deux enregistrements, dont les concertos pour violon de Sibelius et de Barber, avec le violoniste Renaud Capuçon, des enregistrements qui paraîtront dans quelques mois. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Depuis l'annonce gouvernementale de l'autorisation d'ouverture des salles au public à partir du 15 décembre, les grandes institutions musicales organisent leur reprise. L'Opéra de Marseille relancera ainsi sa saison le 20 décembre avec La Bohème de Puccini, une production dirigée par Paolo Arrivabeni avec notamment Angélique Boudeville dans le rôle de Mimi. L'Opéra de Dijon ne rouvrira ses portes que le 1er janvier, même si les représentations du Palais Enchanté, cet ouvrage de Luigi Rossi que nous invite à redécouvrir Leonardo Garcia Alarcón, ces représentations seront bien maintenues, mais présentées uniquement en ligne sur le site internet de l'Opéra. La Scala de Paris reprendra quant à elle ses activités le 18 décembre et accueillera à cette occasion la pianiste Anne Kefelek pour un récital à 19h, placé sous le signe de Beethoven, avec au programme les trois dernières sonates pour piano. Le grand concert de Noël, ou plutôt les grands concerts de Noël de Radio Classique à Paris et à Bordeaux seront bien maintenus et ouverts au public. Rendez-vous donc les 18 et 19 décembre à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre de la Garde Républicaine, le Chœur de l'Armée Française, la Maîtrise des Hauts-de-Seine et le harpiste Emmanuel Cesson. Et puis les 17 et 21 décembre à l'Auditorium de Bordeaux, avec l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, dirigé par son chef Paul Daniel, ainsi que la soprano Cyrielle Djiki Nia et le violoniste Mathieu Arama. La violoniste Fanny Clamagiran, ainsi que les pianistes David Bismuth et Roustem Saïdkoulov, s'engagent aux côtés du Téléthon. Ils ont ainsi donné un concert marathon hier, l'intégrale des sonates pour violon et piano de Beethoven, au château de Courgent dans les Yvelines. Un concert présenté par Patrick Poivre d'Arvor, qui sera retransmis sur Internet en deux parties, les 2 et 3 décembre, sur la chaîne YouTube du Téléthon, avec bien entendu des appel au don. La musique de Beethoven, donc, avec laquelle ces artistes espèrent rassembler le plus grand nombre afin de soutenir la recherche médicale.
Thank you.
Quelques notes du final du concerto pour violon de Beethoven par Fanny Clamagiran et l'orchestre de chambre anglais dirigé par Ken David Mazour. Fanny Clamagiran qui soutient donc le Téléthon aux côtés de David Bismuth et Roustem Saïdkoulov. Et avec la musique de Beethoven, rendez-vous donc les 2 et 3 décembre sur la chaîne YouTube du Téléthon.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Et c'est avec Christophe Rousset que nous allons passer un petit moment à présent, évoquer 2 superbes parutions discographiques. L'oratorio La Betulia Liberata de Mozart, enregistré avec ses talents lyriques. Et puis un album, double album même, dédié aux pièces pour clavecin d'Armand-Louis Couperin. Christophe Rousset qui a pu donner, il y a quelques jours, quelques semaines, malgré le confinement, un concert au Théâtre du Châtelet avec les talents lyriques, retransmis sur Arte Concert, et qui prépare ces jours-ci 2 nouveaux enregistrements discographiques. Un second confinement donc très actif, comme il me l'a confié.
Oui, c'est un confinement très très différent du premier. Pour moi, dans la mesure où effectivement on a réussi, grâce aux mesures gouvernementales qui nous ont permis de faire des répétitions. À partir du moment où on pouvait faire des répétitions, ça voulait dire qu'on pouvait faire de la musique entre nous, et donc ça voulait dire que effectivement les concerts en streaming ou les enregistrements sont possibles. Et de ce fait, l'activité pour moi n'a pas cessé. C'est un grand soulagement, parce qu'un musicien qui est forcé au mutisme, c'est assez horrible en fait.
Et alors, quels sont vos projets d'enregistrement pour ce second confinement ?
J'ai en chantier donc un premier livre de Marin Marais avec Atsushi Sakai et son épouse Mario Martineau. On avait fait les pièces de viol de Forqueray, celle de François Couperin, et donc on se lance dans Marin Marais. Et ça, c'est évidemment un immense plaisir, d'abord parce qu'on a une grande connivence avec Atsushi, qu'on se connaît depuis de longues années. En plus, on a tourné ces pièces de viol du premier livre au Japon en novembre dernier, et donc on avait pris un plaisir infini. C'est de la musique d'une grande richesse, d'une grande force émotionnelle. Et puis voilà, on s'y sent extrêmement bien. Et puis après, je vais faire des enregistrements de clavecin. Je vais faire l'art de la fugue, les 7 toccatas de Bach, et puis un livre de clavecin dont on reparlera probablement, parce que c'est un manuscrit du 17e que j'ai dans ma collection, et donc c'est une chose un peu rare. Thank you.
Alors, on découvre au disque, grâce à vous, Christophe Rousset, un oratorio de jeunesse de Mozart, la Betulia Liberata, que vous avez enregistré avec les talents lyriques. Une œuvre d'une grande force dramatique, expressive. On est d'ailleurs emporté dès les premières mesures de l'ouverture. Une œuvre que Mozart a composée à seulement 15 ans. On a l'impression que s'affirme déjà tout le génie dramatique théâtral du compositeur.
Oui, tout à fait. C'est une œuvre qui est fondée sur l'histoire de Judith et Holoferne, donc Judith qui va couper la tête à Holoferne, et donc le peuple d'Israël opprimé. Donc il y a une situation dramatique assez puissante, et Mozart sort de ce drame, qui a déjà été mis en musique par de nombreux compositeurs avant lui, une musique d'une fougue absolument extraordinaire. C'est une musique difficile à chanter, c'est de la musique très très virtuose, le rôle de ténor en particulier est incroyablement difficile. Il y a pour un oratorio très peu de cœur, vous l'avez noté sans doute, et donc c'est essentiellement, comme vous le dites, une œuvre dramatique. En fait, c'est une azione drammatica. Il y a là-dedans déjà plein de génie. Je me souviens de mon prof d'esthétique, Rémy Stricker, qui disait que le génie de Mozart n'est pas chronologique, il est chronique. Et effectivement, dès son plus jeune âge, il y a déjà un génie incroyable. Et c'est un génie qui, comme ça, apparaît de façon fulgurante. L'ouverture est incroyable. La grande déploration du ténor avec les chœurs qui l'accompagnent, c'est digne des plus grands concertos pour piano de la maturité. Il y a une force... alors qui est puisé évidemment dans l'époque, hein. On est en plein Sturm und Drang et il utilise ce côté un peu pré-romantique de la musique, mais il y a toujours Mozart derrière, c'est-à-dire cette espèce de tendresse, cette fragilité, ce qui nous parle, enfin ce qui nous émeut toujours chez Mozart, c'est déjà présent quand il a 15 ans.
Il y a quelque chose, j'imagine, Christophe Rousset, de particulièrement touchant, émouvant à diriger le jeune Mozart. Vous avez enregistré également Mithridate, qui a été composé, je crois, juste avant cette Betulia Liberata. Qu'est-ce qui vous touche lorsque vous dirigez l'œuvre d'un compositeur de 15 ans, même si on sait que Mozart, à 15 ans, avait déjà un talent très affirmé ?
Au fond, on n'a pas une attitude tellement différente que si c'était un adulte. Je veux dire, sa musique est très très sérieuse. Elle est incroyablement bien composée. Il n'y a pas de maladresse. On est totalement impressionné. En fait, on est tout le temps dans l'adhésion à ce qu'il fait. Et puis en plus, il nous met des défis. Enfin, surtout aux chanteurs. Donc, il ne s'agit pas de le regarder avec amusement et au contraire de le prendre très très au sérieux. Et je pense que c'était ce qu'il voulait quand il soumettait ses œuvres aux adultes qui l'entouraient et qui étaient censés jouer ses œuvres. Des œuvres pour l'Italie. Donc, ce sont des œuvres qui ont un parfum différent. Cette œuvre a été composée pour Padoue. On ne sait pas si elle a été représentée ou pas. En tout cas, elle était prévue pour des chanteurs de très haut vol. Et il y a dans cette veine italienne, que ce soit Mithridate ou Lucio Silla ou cet oratorio, il y a une patte différente. Il y a une patte vraiment qui est beaucoup plus italienne. Je pense qu'il adaptait son talent au public auquel il s'adressait.
No.
Alors, on est emporté à l'écoute de cette Betulia Liberata que vous venez d'enregistrer, Christophe Rousset, avec les talents lyriques, et avec, entre autres, Sandrine Pio, qui est impressionnante, notamment dans les airs de bravoure, les airs de fureur de cette œuvre que vous nous faites redécouvrir au disque. Est-ce que vous allez continuer votre exploration de l'œuvre de Mozart? Vous jouez, vous avez dirigé de nombreux opéras de Mozart, pas que les opéras de jeunesse, mais est-ce que vous avez envie d'en graver d'autres?
Si je me suis positionné sur Mithridate et sur Betulia, c'est parce que justement il y avait des manques discographiques. Je suis pas absolument sûr que ça soit nécessaire que je livre au public une xème version des Noces de Figaro, bien que j'ai une joie absolument infinie à diriger les Noces de Figaro. Mais bon, il me semble qu'il y a d'autres priorités. Et je, par exemple, je viens d'enregistrer du Salieri et je reste fidèle à Salieri, même si évidemment on n'a pas la même satisfaction, puisque évidemment le génie de Mozart est unique. Mais Salieri ne manque pas de génie et c'est toujours un grand défi que de s'attaquer à ses œuvres toujours une grande surprise, parce qu'en fait ce sont des œuvres qui fonctionnent incroyablement. Et donc le prochain, ça sera une Armida qui est déjà en boîte et qui sortira fin décembre, je crois, ou peut-être en janvier pour les concerts qui sont prévus. On en a un à Vienne et on en a un à la Philharmonie de Paris.
Alors, de nombreux enregistrements discographiques, et on s'en réjouit, Christophe Rousset, il y a cette Betulia Liberata avec les talents lyriques qui est sortie, en même temps qu'un album de clavecin dédié à Couperin. Alors, ce n'est pas François ni Louis Couperin, mais Armand Louis Couperin. Est-ce que vous pourriez nous situer cet Armand Louis dans la dynastie Couperin?
Alors, c'est un petit-neveu de François Couperin, celui qu'on appelait Monsieur Couperin, d'ailleurs, très peu après la mort de François Couperin. On a vite oublié François et on a très vite adulé son petit-neveu, Armand Louis, qui était un grand virtuose. Et ces pièces de clavecin que je viens de graver le montrent. C'est de la musique vraiment d'une haute virtuosité, avec une vision du clavecin qui est sur la décadence du clavecin, c'est-à-dire qu'on fait plein d'effets, on frappe un peu l'instrument, on est évidemment influencé par Scarlatti, qui a été publié à Paris et qui était bien connu aussi des clavecinistes français. Et donc on va un petit peu plus vers ce que fait Balbâtre, Royer ou Dufly. On est dans le dernier clavecin. Alors on peut pas nier qu'il y a chez Armand Louis Couperin quelques petites traces du grand-oncle fameux. Il utilise le clavecin expressif que François Couperin a mis en gloire, mais il va évidemment ailleurs. On est dans les années 1750, ce qui n'est pas si tard que ça, mais il y a déjà des petits relents de classicisme là-dedans. On regarde vraiment vers l'avenir. Oui, c'est une musique résolument différente. Toujours des pièces à titre, ce sont souvent des portraits de personnages de l'époque, parfois des pièces de caractère, des pièces descriptives, comme les caqueteuses, où on donne une imitation du caquet des poules. Mais c'est beaucoup moins évocateur que les pièces de François. Elles sont beaucoup plus poudreuses, on va dire. Mais c'est une musique qui est incroyablement pleine d'effets. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je dois dire que quand je les ai joués, j'étais assez content. Et en plus, parce que c'est un défi, c'est de la musique assez difficile techniquement. Mais après, quand j'ai réécouté le disque, j'étais surpris parce qu'en fait, tout ça tient très, très, très bien. Il y a une personnalité forte, une vision du clavecin, de l'instrument qui est très personnelle. Et je trouve ça plutôt remarquable.
Thank you.
Voilà un enregistrement qui vient de paraître chez Aparté. Christophe Rousset, cet album dédié à Armand-Louis Couperin. Et la suite de vos projets, un concert avec les Talents Lyriques dans quelques jours, ce sera le 10 décembre à la Chapelle Corneille à Rouen, concert que vous allez donner comme pour le concert au Châtelet en streaming.
Oui, effectivement, l'Opéra de Rouen a voulu maintenir cette date. Ça veut dire qu'on va jouer effectivement sans public. Donc c'est un concert de musique de chambre, c'est de la musique italienne et française qui veut mettre en lumière la cantate française trempée de cantate italienne, c'est-à-dire complètement la double influence, si vous voulez, de l'Italie sur la France et éventuellement de la France sur l'Italie. Il y a une très très belle chanteuse, Siobhan Stagg, qui a été ma Pamina il y a quelques années quand j'avais fait la flûte enchantée. Vous y étiez sans doute à la Philharmonie de Paris. C'est une chanteuse très attachante avec une voix riche, pas forcément spécialisée dans le baroque, mais justement, ça sera ses premiers pas en musique française, donc je suis très content de l'accompagner là-dedans. Et puis, bon, les Talents Lyriques avec la glorieuse Gilonne Gobert au violon, que j'adore.
Voilà, et puis la rentrée avec le public se fera au mois de janvier, avec bien des projets. Et parmi les grands projets de ce début d'année 2021, il y a donc Salieri.
Salieri, effectivement, l'Armida, qu'on a enregistré déjà, et qui est une œuvre vraiment incroyable. C'est, en fait, comme vous le savez, j'ai enregistré un dramma giocoso qui s'appelle la Grotta di Trofonio, il y a de nombreuses années. Puis après, j'ai gravé les trois opéras français de Salieri, les Danaïdes, les Horaces et Tarare. À chaque fois, j'ai été confronté à un génie que je n'attendais pas, et je suis vraiment très ébloui par ce compositeur. Et donc, il manquait le volet opéra seria. Et donc, Armida est un opéra seria. C'est un opéra qu'il a composé en 1771. Mozart était encore jeune et il ne pouvait pas lui faire d'ombre à cette époque-là. Mais Salieri était aussi relativement jeune. Il avait tout juste 20 ans et il écrit une œuvre pleine de verve qui, évidemment, est trempée dans ce qui se passe autour de lui en Europe à l'époque, c'est-à-dire aussi bien Traetta, Gluck que Jomelli. Et en même temps, il y a son génie propre qui apparaît de façon très très nette. Et c'est une œuvre qui aura énormément de succès, qui sera traduite en allemand, qui sera reprise diverses fois, y compris à Vienne, et qui fait que Salieri va retravailler son instrumentation. Donc il y a ici une pépite que je suis vraiment très fier de pouvoir montrer au public. En plus, on a de très beaux chanteurs. C'est toujours de la musique assez virtuose, effectivement. Beaucoup plus que les drammi giocosi. On est ici dans l'opéra seria. Il y a toujours une exigence vocale qui est bien supérieure.
Voilà, donc grâce à vous, on redécouvre la musique de Salieri, dont vous êtes un fervent ambassadeur, Christophe Rousset. Cette Armida qui sera donnée à Caen, à la Philharmonie de Paris et à Vienne fin janvier, début février. D'ici là, avec vos Talents Lyriques, vous serez à la Cité de la Musique pour diriger Lully et Colas, La naissance de Vénus, programme que vous donnerez le 12 janvier. Et puis on attend la sortie de cette Armida et puis des autres enregistrements que vous êtes en train de réaliser. Et on se régale avec la Betulia Liberata et la musique d'Armand-Louis Couperin. Merci beaucoup, Christophe Rousset.
Merci, Laure.
une pièce d'Armand Louis Couperin, La Deux Bois Gelous, un extrait de ce superbe album sorti chez Aparté que Christophe Rousset a enregistré sur un clavecin goujon, un instrument contemporain d'Armand Louis Couperin appartenant à la collection du Musée de la Musique. Christophe Rousset qui retrouvera donc ses talents lyriques le 8 décembre à l'Opéra de Rouen pour un concert capté et diffusé ultérieurement, puis le 12 janvier à la Cité de la Musique en public dans un programme dédié à Lully et Colas, avant de nous dévoiler cette Armida de Salieri le 30 janvier au Théâtre de Caen et puis le 2 février à la Philharmonie de Paris. L'enregistrement d'Armida chez Aparté sortira dans la foulée. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte Thoreau-Lassalle pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du violoncelliste Christian-Pierre Lamarca qui nous présentera son nouvel album Cello 360. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge.